toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute de Fréquence Mistral. Nous retrouvons tout de suite François Malabaf pour une émission dédiée aux correspondances. Bonjour François.
Bonjour Agathe, bonjour à tous. C'est effectivement dernière émission de cette belle édition des correspondances qui dure jusqu'à dimanche. Et nous parlerons ici même, nous allons partir dans le Far West, figurez-vous. Nous allons être au début du 20e siècle et nous allons parler également du Moyen-Âge. Et évidemment, nous allons parler de sieste aussi et de littérature. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous propose d'écouter le directeur des correspondances, Olivier Chaudançon, qui va nous présenter le programme de ce beau week-end ensoleillé sur Manosque pour ce dernier week-end des correspondances de Manosque, la 16e édition.
Aujourd'hui, aux correspondances.
Au programme de ce samedi, les apéros littéraires à 11h, qui recevront deux écrivains, Gauze, auteur d'un magnifique premier roman qui s'appelle Debout payé, et puis un auteur ghanéen, dont je n'ose prononcer le nom entier parce qu'il est très compliqué, Parks, je ne prends que la fin, un des très grands livres de cette année. Il y aura également une rencontre professionnelle, puisque chaque année on a aussi envie de réfléchir sur le livre, l'écrit et son économie. Cette année, ce sera consacré au renouveau des clubs de lecture. Comment les gens ont envie de partager leur lecture, d'échanger. Il y en a un à Manosque à travers le comité de lecture, mais il y en a beaucoup en France. Il y a aussi des clubs numériques à travers Internet. Donc c'est ce phénomène que nous analyserons avec différents spécialistes. Et quand je dis rencontre professionnelle, c'est évidemment ouvert à tous ceux que le sujet intéresse. Il y aura également du cinéma, puisque nous projetterons à 11h le film Fever, qui est tiré d'un livre de Leslie Kaplan et qui est mis en scène par Raphaël Niel. Dans l'après-midi à 15h, nous recevrons une très belle auteure d'origine ghanéenne également, Taïé Selassie, qui a fait un premier roman chez Gallimard assez saisissant, qui s'appelle Le ravissement des innocents. Nous recevrons un écrivain historien aussi, Patrick Boucheron, et puis un plateau avec deux premiers romans, l'un de Pierre Marty et l'autre d'Edwige Jeanmar. Évidemment, la fameuse sieste littéraire à 15h, comme tous les jours, mais je n'y reviens pas plus que ça. À 16h30, nous recevrons Jean-Marie Blas de Robles. Nous l'avions invité en 2008 pour un livre qui a eu le prix Médicis, si je ne me trompe pas. Et là, il revient avec un ouvrage assez étonnant qui s'appelle L'île du point Nemo, qui est à la fois un roman contemporain, mais qui convoque aussi toute une mythologie de la littérature d'aventure, Sherlock Holmes, Tintin, même si l'on veut, Jules Verne. Enfin voilà, c'est un numéro absolument éblouissant de références littéraires et de modernité. Voilà, je ne peux pas en dire plus que ça, il faut le lire, c'est vraiment un livre stupéfiant. À la même heure, nous aurons Véronique Aubouy et Mathieu Riboulet qui ont écrit un livre sur Proust et autour de Proust. Jean-Yves Joanet qui sera interrogé par Maëlys de Kerangal. Et puis Laurence Tardieu qui viendra pour une lecture musicale, puisqu'autour de son ouvrage, elle a monté une lecture et invité Joseph Danvers, chanteur et guitariste, qui l'accompagnera. À 18h, Emmanuel Carrère, on est très heureux de le recevoir pour la première fois à Manosque. Il vient de publier Le Royaume, un livre qui fait l'actualité de cette rentrée littéraire et qui, comme à chaque fois avec Emmanuel Carrère, parle de lui, mais aussi explore les fondements du christianisme. C'est un livre très important. Voilà, je pense que nombreux seront les festivaliers à vouloir écouter Emmanuel Carrère. Et puis à la même heure, un dialogue entre Julia Deck et Joyce Ormond. Et enfin, Nathalie Kuperman pour une lecture accompagnée de la comédienne Marie Vial. En soirée, l'immense comédienne Dominique Raymond, qu'on a déjà reçue ici pour une lecture autour de Grésilie d'Israël, pour une lecture autour de Jean Rhys, qui avait été l'une et l'autre des moments forts du festival, revient pour évoquer la figure de Marguerite Duras à travers un montage de texte où l'on découvrira Marguerite Duras assez inattendue, drôle, facétieuse et sur des textes peu connus. Et puis en dernière partie de soirée, le concert littéraire, nous avons la chance d'avoir le chanteur Raphaël qui viendra pour le festival nous présenter à la fois des lectures de textes qu'il affectionne, d'auteurs qu'il admire, et puis un certain nombre de ses chansons en écho avec les textes qu'il aura lus et choisis. Dimanche, le festival n'est pas terminé et se poursuit très fort même, puisque à 11h nous allons recevoir Éric Reinhardt avec son magnifique dernier roman qui se nomme L'amour et les forêts. Nous recevrons Marie-Hélène Lafon et Joyce Ormond. Et puis Emmanuel Carrère reviendra après son grand entretien la veille place de l'Hôtel de Ville. Il viendra là pour une lecture de son texte et c'est lui qui lira un extrait choisi de son texte. Dans l'après-midi, nous recevrons Patrick Deville, qui vient régulièrement à Manosque, la dernière fois pour un livre magnifique, Peste et choléra, qui a eu le prix Fémina. Et là, il revient avec un livre qui se passe principalement au Mexique et qui s'appelle Viva. Et puis, Mintra Nuit et Lydie Salver en dialogue. L'une, Mintra Nuit, a écrit sur ses origines, le Vietnam. Lydie Salver, elle aussi sur ses origines, l'Espagne et au moment de la guerre d'Espagne. Et puis nous recevrons également Kaoutar Archi, à nouveau Marie-Hélène Lafon, Olivier Adam, qui après un débat dans les jours qui auront précédé, là sera en lecture dans la petite salle, lecture musicale puisqu'il sera accompagné par son frère Julien Adam pour nous faire entendre des extraits de son dernier roman « Peine perdue ». Et puis la clôture du festival, dimanche, à 17h, autour d'un ouvrage qui s'appelle « Au bonheur des lettres », qui est une anthologie de lettres de tous horizons, de personnes très connues, d'inconnues, qui traitent tous les sujets, et ça nous donne un espèce de bouquet final avec de la drôlerie, de l'humour, de l'émotion. Vous allez voir, c'est un mélange étonnant. Et ces différentes lettres seront portées par deux immenses comédiens. D'une part, Dominique Blanc, et d'autre part, Jacques Bonnaffé.
Retour en plateau, toujours sur Fréquence Mistral, l'émission spéciale des correspondances. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir l'écrivain et cinéaste Éric Villard. Bonjour Éric.
Bonjour.
Nous allons parler avec vous de Tristesse de la Terre, qui est paru aux éditions Actes Sud, et qui est un ouvrage qui est goncourable, il faut le signaler. On ferme la parenthèse, c'est un très beau livre sur l'histoire réelle, vraie et pas du tout rêvée de Buffalo Bill. Vous êtes venu également en compagnie d'un historien et universitaire, Patrick Boucheron. Bonjour Patrick Boucheron.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici même. Nous verrons avec vous comment un pays arrive à se construire sans être passé par la case Moyen-Âge que vous connaissez particulièrement bien. Et c'est peut-être une des clés qui nous permettra de comprendre l'Amérique actuelle. Éric Villard, première question, et avant de vous poser des questions, on va parler de votre livre, évidemment, Tristesse de la Terre, qui est paru, je l'ai dit, chez Actes Sud. Vous vous attaquez à un mythe. Ce mythe, c'est Buffalo Bill. William Frederick Cody, c'est un personnage emblématique de l'histoire des États-Unis, un pays où le mot histoire recouvre généralement à peine une petite poignée de siècles, même si, et l'on verra l'importance de ce même si, avec les Native Americans, ceux qui étaient là avant l'arrivée des Blancs. Personnage étonnant à la flamboyance apparente, héros de la conquête de l'Ouest, mais aussi avide homme d'affaires, c'est le cœur de votre roman, car ayant pris conscience de sa notoriété, Buffalo Bill se lance dans le spectacle et dans la démesure, apportant le Far West aux Américains de l'Est, fascinés, ainsi qu'aux Européens dans des tournées démesurées. Et des spectacles grandioses, trichant avec la réalité, abusant, le mot est faible, de la vulnérabilité de certains acteurs qu'il a enrôlés, les Indiens et Sitting Bull en premier lieu, et créant les produits dérivés, Tomahawk et bijoux indiens de pacotille ou restauration estampillée cowboy par exemple. buveur, menteur, voleur, violeur, codice en prend pour son grade de colonel. Dans ce livre qui rétablit l'histoire avec style et documentation, nous parlerons aussi de photos dans un instant, un livre passionnant qui nous interroge aussi sur le voyeurisme des foules. Première question très légère pour engager notre conversation, Éric Huillard, est-ce que dans votre tendre enfance, vous avez joué aux cow-boys et aux indiens ?
Oui, comme beaucoup de gens. Oui, d'autant plus que pendant mon enfance, on passait de longs moments à la montagne, dans un endroit très perdu, d'ailleurs pas loin d'ici. Et donc il y avait des villages abandonnés, en ruine. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir jouer à ce genre de choses.
Vous étiez plutôt cow-boy ou plutôt indien ?
Oh, je me souviens plus, ça devait varier selon. On était trois, donc avec mon frère et ma sœur, si bien comme j'étais l'aîné, je devais distribuer les rôles, comme ça m'arrangeait, comme alors, Buffalo Bill un peu.
Alors là, évidemment, c'est la question qui s'adressait à l'enfant, Éric Huillard. Après, lorsqu'on s'adresse évidemment à l'écrivain, on peut lui demander, quand vous avez une lecture de l'histoire des États-Unis, notamment du 19e et début du 20e siècle, de quel côté vous vous êtes plutôt... comment surtout vous étiez plutôt du côté indien, on va dire, et de comment vous avez procédé pour construire ce livre « Tristesse de la Terre ».
Juste du coup une anecdote sur l'enfance qui me revient, c'est qu'un jour, je me souviens qu'on avait effectivement joué aux cow-boys et aux indiens, et j'avais pris des marqueurs, et j'avais dessiné sur mon frère et ma sœur tout un tas de signes
et ça ne
que ma
pas.
Mère a eu du mal à effacer ensuite. Voilà. Donc, comment j'ai procédé ? En fait, les livres naissent petit à petit, et d'une drôle de façon, l'origine des livres gît sous les commencements. Je crois qu'on l'oublie, et que bon, après, on construit un discours, enfin une analyse de ses propres livre qui est à la fois bon, intéressante et artificielle. En fait, il est né d'un autre projet au départ. C'est-à-dire, je travaillais sur une histoire fragmentaire des États-Unis et puis je croisais Buffalo Bill tout le temps. Si bien que quelque chose a cristallisé autour de lui, j'avais le sentiment que tous les gens de la frontière auxquels je m'étais intéressé avaient travaillé pour le Wild West Show. Voilà, si bien que je me suis intéressé de plus près à ce Wild West Show.
Avec un personnage assez étonnant, Buffalo Bill, on peut rappeler, alors que ce personnage était curieux, il a commencé sa carrière, entre guillemets, à l'âge de 15-16 ans en étant Pony Express, puis après il a abattu les bisons avec un fusil, il les a descendus presque par plaisir pour que le chemin de fer, le cheval de fer, comme disaient les Indiens, aille d'est en ouest pour la fameuse conquête de l'ouest. Il a obtenu une sacrée gloriole, et puis après on a commencé à un petit peu mythifier le personnage. Et là, ça lui a donné une idée extraordinaire, c'est de faire le Wild West Show, c'est-à-dire une tournée avec les acteurs de l'Ouest américain.
Oui, ça c'est une chose qui s'est faite progressivement. Bon, d'abord, il a participé effectivement, comme vous l'avez rappelé, à tout un tas de. Disons qu'il est un personnage finalement assez ordinaire au départ de la vie de l'Ouest. C'est-à-dire, il a des emplois très très divers, et puis c'est une vie mouvementée. Donc, pour les gens de l'Est, de toute façon, il y a quelque chose. Ce sont des mésaventures. Mais par ailleurs, il a aussi croisé des personnages importants, puisque cette vie de l'Ouest avait cette chose un peu singulière. Enfin, c'est même un aspect sympathique, si on veut. C'est que c'est un monde en construction, donc on y croise en fait les édiles beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui dans une société construite. Si bien qu'ensuite, alors il y a un épisode assez drôle de son existence. Ned Buntline, qui était un écrivain de romans de 4 sous, cherchait une personnalité de l'Ouest pour construire un de ses romans. Et il est tombé donc sur Buffalo Bill, qui lui a raconté son histoire, qui devait être une série un petit peu de tartarinades et d'éléments vrais qui se mêlaient, ou en tout cas d'exagération très forte de ce qu'il avait pu vivre. Et puis ensuite, Buntline a repris ça dans un roman dont la vertu même est justement l'exagération. Si bien qu'ensuite, Buffalo Bill s'étant rendu compte qu'il était célèbre, et en quelque sorte entré dans sa propre peau, et a élaboré le Wild West Show, dont il était lui-même un des personnages absolument central.
Voilà, le point de départ de votre livre, c'est un extrait que je vais lire de Tristesse de la Terre, justement, qui rappelle cette rencontre avec Ned Buntline. Vers 1867, alors qu'il bossait pour le chemin de fer, les employés lui donnèrent ce surnom Buffalo Bill. Puis il raconta ses aventures par hasard, entre deux coups de gnôle, à Ned Buntline, qui en fit un roman bon marché. Et ce récit d'arsouilles, boniments, carottes, tissus d'escobardise destinés à se faire payer Encore un verre, était devenu le thème d'un feuilleton. Et d'épisode en épisode, le personnage de Buffalo Bill, mélange de fanfaronnade d'une nuit et des multiples rallonges, suffixes et incréments ajoutés au fil des pages par Buntline, avait obtenu une sorte de notoriété. Plus tard, Buffalo Bill apprendra qu'un acteur, Jason Ward, tiendra son rôle sur les planches et que son personnage est devenu célèbre. Il n'a donc décidé de rien, sa vie lui échappe. Quelqu'un qui est ballotté par le destin, c'est ça ?
Oui, puis ce qui m'intéressait là-dedans, enfin ce qui, quand je l'ai appris, m'a intéressé, c'est que finalement ça a à voir avec la fiction, tout ça. C'est une vie qui est entièrement fictionnée, mais par d'autres. Il est dépossédé par la fiction de sa propre existence, mais c'est en même temps, c'est une chose double, puisqu'ensuite tout le profit de son existence va venir de là. Donc on a une forme de paradoxe, de contradiction qui évidemment était excitante.
C'est une période également très difficile pour les États-Unis, où on se rend compte que il faut aller dans l'Ouest. Go West, c'était le slogan de l'époque. Et évidemment, à l'Ouest, il y a déjà les Native Americans, il y a les Indiens, et bien sûr, il y aura des guerres indiennes. Je ne sais pas si Buffalo Bill y a pris part véritablement, mais en tout cas, il a ensuite utilisé les Indiens, notamment des chefs célèbres comme Sitting Bull.
Oui, c'est l'époque aussi de la destinée manifeste, c'est-à-dire de cette idée que le peuple américain, qui est la réunion de tous les peuples d'Europe, de tous les je crois que c'est même le mot rebut qui est employé sous la statue de la liberté, de tous les peuples, vient ici, se concentre et formera le peuple le plus puissant du monde. Et puis il y a un vieux fond religieux derrière, au fond, donc protestant, lié donc à la terre promise, enfin à quelque chose qui leur serait offert. Si bien que le Wild West Show emboîte ce pas, il raconte au fond la fable que les Américains ont envie d'entendre. Elle a donc de multiples échos, à la fois religieux, politiques, qui satisfont le public américain.
Alors le Wild West Show, c'est évidemment une caravane extraordinaire avec des centaines de chevaux, cavaliers, évidemment des figurants, j'allais dire, d'époque, et en même temps c'est une entreprise qui est quelque part qui est un peu précurseur de ce qui va se passer avec les grandes tournées actuelles.
Oui, oui. Et puis, alors, comme vous le disiez aussi juste précédemment, ce qu'il y a de très spécifique, c'est petit à petit, Buffalo Bill monte un spectacle qui est une mise en scène de l'histoire immédiate, même de l'actualité parfois, c'est-à-dire d'événements qui viennent d'avoir lieu quelques semaines, en fait, auparavant. Et dans ce spectacle, il emploie à la fois donc des Indiens rescapés des massacres et également des rangers, d'anciens éclaireurs, qui eux aussi y ont participé. Et ces mises en scène, qui peuvent au début être relativement fidèles, vont avec le temps devenir de plus en plus loin des événements qui se sont produits, puisque le public réagit aussi. Et donc c'est un entrepreneur de spectacle et il s'ajuste en quelque sorte à la demande.
Pourquoi justement est-ce qu'il va trahir la vérité pour des raisons, j'allais dire, quasiment de marketing ?
Je pense qu'il y a au moins deux raisons majeures. Après, il y en a sans doute d'autres. Il y a une raison qui est celle du profit, de l'efficacité du spectacle. C'est-à-dire le public demande que la bataille de Little Big Horn termine bien, puisque le public déplore, puisqu'au début, Buffalo Bill mettait en scène une bataille de Little Big Horn, somme toute, disons, à peu près fidèle aux faits. Mais le public était très mécontent à la fin, il le manifestait. Donc il a infléchi jusqu'au point d'inventer cette figure rhétorique qui est le happy end, donc de modifier carrément la fin de la bataille de Little Big Horn, et même de se faire lui-même participer à la bataille de Little Big Horn, où il aurait sauvé Custer. Donc il prend des libertés qui sont liées au profit qu'un entrepreneur de spectacle doit évidemment, dont il doit tenir compte. C'est le premier objectif. Et puis je pense qu'il y a aussi un objectif politique, puisqu'il ne faut pas oublier que Buffalo Bill est une personnalité politique très vite de premier plan. C'est un ami de Roosevelt, donc de Theodore Roosevelt, le président des États-Unis. C'est quelqu'un qui va faire des tournées mondiales et qui va rencontrer tous les grands de ce monde. C'est donc la grande fable américaine qui est en train de se construire. Et je pense que c'était pas un personnage tout à fait ingénu.
Rappelons que Little Big Horn, c'était l'union des Indiens et notamment des tribus Sioux qui se sont réunis pour combattre, en l'occurrence, le 7e de cavalerie du général Custer. Il était général à l'époque, oui, je crois. Et en tout cas, il y a laissé ses beaux cheveux blonds et sa belle moustache.
Et sa carrière.
Sa carrière, bien sûr. Et ça a été un temps fort dans l'histoire des Indiens d'Amérique qui ont dit, on peut résister, on peut se battre. Évidemment, après, l'histoire a prouvé que les tribus indiennes ne pouvaient pas lutter contre les Blancs, et encore moins lutter unis contre les Blancs. Et ils ont souffert, et ça se termine encore tragiquement aussi pour eux. La dernière bataille, quasiment, c'est celle de Wounded Knee, aussi très connue.
Oui, alors qui c'est justement un peu l'objet du livre, puisqu'il est construit autour de Wounded Knee, avec deux chapitres, l'un qui s'appelle le massacre de Wounded Knee et l'autre la bataille de Wounded Knee, puisque Buffalo Bill a mis en scène, donc très peu de temps après le massacre, cet événement, mais sous forme de bataille héroïque, si bien que pendant très longtemps l'historiographie elle-même a été imprégnée par cette version, en tout cas américaine, héroïque de la bataille du massacre de Wounded Knee. Et aujourd'hui les historiens s'accordent pour parler d'un massacre, avec évidemment des variations sur l'interprétation des faits. Seulement, il faut bien savoir que les Indiens étaient désarmés au moment de ce qu'on appelle parfois la bataille encore, ou par lapsus comme je l'ai fait il y a un instant. Ils étaient désarmés, et puis donc c'était l'armée américaine avec au-dessus de cette espèce de vallée, des canons Hotchkiss braqués sur un campement de fortune, puisque les Indiens venaient de faire une longue marche en plus harassante. Donc je crois qu'on peut pas du tout parler de bataille. Et puis Buffalo Bill, de ce point de vue, ne peut pas être considéré comme innocent ou mal informé, puisqu'il est allé tout de suite après sur le dit champ de bataille, et il a bien vu, connaissant parfaitement la guerre, que c'était un massacre.
Alors là, il y a un personnage aussi important qui est dans votre livre et qui est très émouvant, évidemment. Il s'agit de Zinkala Nouni, autrement dit de Marguerite Colby, ou l'inverse, comme vous voulez. C'est un bébé qui a été récupéré dans les bras d'une mère mourante, donc à Wounded Knee.
D'une mère morte.
Morte. À Wounded Knee, où il a fallu défaire les...
Casser les bras gelés, puisque juste après le massacre de Wounded Knee, il y a eu une tempête de neige, si bien que le 7e de cavalerie a dû retourner à ses camps et revenir plusieurs jours plus tard. Il avait gelé, et donc les Indiens avaient récupéré une partie des cadavres, et un médecin indien, d'origine indienne, donc s'est promené, aéré comme ça sur le on peut pas dire champ de massacre, mais bon, c'était ça, et a trouvé finalement ce nourrisson qui était sous sa mère, morte. On a dû donc casser les bras et l'arracher au cadavre de sa mère.
Ce bébé va être adopté, entre guillemets, je mets bien des guillemets, j'en mets même 4 fois peut-être, par des soldats américains, donc par un général, et donc elle participera au Wild West Show de Buffalo Bill.
Oui, alors elle y participera de manière assez pelliculaire, en fait. À la fin de sa vie, qui a été courte, puisqu'elle a été très malade, elle y participe comme girl de rodéo, c'est-à-dire qu'au fond, elle doit, au début du spectacle, faire le tour de l'arène en compagnie d'autres girls de rodéo, vêtue comme une indienne de pacotille, donc avec les vestes à franges et tout le tralala. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'elle a déjà rencontré une fois Buffalo Bill sur son parcours, lorsqu'après le massacre de Wounded Knee, et après qu'on l'eût retrouvé, une négociation a eu lieu à Pine Ridge entre Buffalo Bill, son impresario John Burke, et le général Colby, qui finalement a acheté donc cet enfant, qui lui a servi, disons, pour de passeport auprès des tribus indiennes pour faire du commerce.
Elle aura une vie abominable, on peut dire ça comme ça. Elle sera prostituée, elle finira malade, elle mourra jeune, vous l'avez dit. On a là tout le symbole, en fait, de la souffrance du peuple indien, de ce qui est devenu les États-Unis d'Amérique.
Oui, c'est même pour elle, d'une certaine façon, doublement terrible, puisqu'ayant été élevée par Colby un moment, et par surtout la femme de Colby, qui s'en est tout de même occupée, elle n'est pas du tout indienne. Et au moment, à l'adolescence, où elle se rend compte, donc elle est d'origine indienne, où ça commence, disons, à lui dire quelque chose, elle va partir, aller dans des réserves indiennes, et en fait, son intégration est impossible. Elle a pris des habitudes qui sont des habitudes de blanche. Elle fume, elle boit, elle parle trop, si bien qu'elle ne pourra jamais intégrer la société indienne. Donc c'est un double drame pour elle. Il a fallu très longtemps pour que donc les tribus Lakota retrouvent donc le cadavre de Zinkala Nouni et la ramènent à Wounded Knee, où elle est aujourd'hui enterré.
Le Wild West Show de Buffalo Bill fera le tour du monde, viendra en Europe d'ailleurs, viendra en France plusieurs fois, et passera un long mois d'errance du côté de Nancy, avec des cavaliers, des Indiens notamment, qui sont complètement abandonnés par Buffalo Bill, qui est allé faire ses petites affaires, c'est ça?
Oui, il est allé justement, il a entendu parler de mouvements, de ce qu'on appelait des révoltes. En fait, il n'y avait pas du tout de révolte indienne. Il y a un mouvement qui s'appelle, dont je ne parle pas dans le livre, qui s'appelle la danse des esprits, qui est un mouvement messianique désespéré, et les grands éleveurs, en fait, les grands propriétaires, à ce moment-là, utilisent ce mouvement-là pour inquiéter les nouveaux arrivants et en fin de compte conserver leur pouvoir, et surtout démembrer la grande réserve indienne. et avoir davantage de terre. Donc quand Buffalo Bill entend parler de ça, il revient très vite sur les lieux. Alors sans doute pour de multiples raisons, puisque la plupart des Indiens qui travaillaient dans le Wailwaysh, en tout cas beaucoup d'entre eux, venaient de cette réserve de Pine Ridge. Donc il a des liens affectifs sans doute avec cette réserve. Mais par ailleurs, évidemment, il y a trois choses. Il y a d'abord ça, et puis il y a aussi ces liens avec les autorités militaires de ce temps qu'il connaît très bien. Donc. Et puis la troisième chose, ce sont effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire des affaires.
Il a laissé, donc il abandonne son show et son spectacle pendant à peu près un mois. C'est dans la mémoire d'ailleurs des Nancéens. Hein. C'est assez curieux quoi, de dire, oui. Tiens, il y avait des Indiens qui traînaient du côté de Nancy. Il y a aussi...
Je vous coupe juste un instant, c'est dans la mémoire de beaucoup de monde, puisqu'hier, donc, je parlais avec Sylvie Giono qui me racontait que Jean Giono a vu le Wailwaysh Show et le lui a raconté.
Il était enfant, donc effectivement, oui. Il l'a vu à Marseille. Oui. Marseille où a été enterré pendant très longtemps un chef indien dont la dépouille a été récupérée il y a assez peu de temps par ses héritiers et qui a été rapatrié dans les terres du Grand Manitou aux États-Unis.
Oui, parce que des Indiens, évidemment, mouraient de diverses manières, mais surtout c'était des cascades dangereuses. Donc des Indiens se blessaient, qui étaient essentiellement des rôles de figurants, donc évidemment des rôles dans lesquels les risques pris sont plus importants, et puis on les laissait, puisque la tournée continuait. Sauf que beaucoup de ces Indiens-là ne parlaient pas anglais, certains oui, d'autres non, et puis les Français de l'époque parlaient mal anglais aussi, donc ils se trouvaient totalement isolés tout à coup, à l'autre bout du monde, et certains d'entre eux d'ailleurs se sont rétablis, ont donc vécu en France, en Allemagne, en Italie, et puis d'autres, ils sont morts, et ils sont enterrés, en général dans la fosse commune. Il est donc rarement possible de les retrouver.
J'ai parlé tout à l'heure de la démesure des spectacles du Wild West Show, des centaines de cavaliers, des tribunes qui pouvaient accueillir jusqu'à 40 000 personnes avec deux prestations dans la journée. Vous vous rendez compte, ça, au début du XXe siècle, ça devait être quelque chose d'assez fantastique, avec tout à côté ce qu'on appelle les produits dérivés, hein, c'est-à-dire tout ce qui aujourd'hui serait estampillé Coca-Cola, par exemple, et qui là, en l'occurrence, ben, tout simplement rapporté encore plus d'argent aux organisateurs, en l'occurrence à Buffalo Bill.
Oui, c'est-à-dire, on voit bien, c'est une entreprise pléthorique qui a en plus produit surtout une documentation pléthorique elle-même de publicité. Quand on s'intéresse au Wild West Show, on tombe sur des masses d'affiches, de photographies, de prospectus, enfin ce genre de choses. Et l'écriture, c'est l'inverse. C'est la plus petite activité qui soit, on est tout seul. Donc, comment dire, c'est un rapport très particulier que d'écrire, de faire un livre sur une entreprise qui s'est tellement rabâchée et qui en plus nous saisit. Non seulement elle nous enveloppe donc par la masse qu'elle a produit de documents, mais aussi elle nous attrape depuis l'enfance. Donc on est vulnérable d'une certaine manière face à elle.
Dans votre livre Tristesse de la Terre, Éric Vuillard, il y a des supports particuliers qui sont des photos. On a parlé de Nunny tout à l'heure, Marguerite Colby. Elle est en photo, je crois, sur la page de couverture. Est-ce
non,
que c'est elle?
Non, ça n'est pas elle. C'est une ambiguïté d'ailleurs un peu volontaire. Non, c'est une autre indienne qui s'appelle Zinkala également. Donc, ce qui était inscrit au dos du livre, donc ça facilite l'équivoque, enfin ça l'aggrave, qui a participé également au Wild West Show. Seulement, c'est une photographie de Gertrude Casbière, qui était une photographe. Disons que, à la différence de Curtis, qui a fait de très belles photos d'Indiens, mais qui sont des photos, je trouve, de facture anthropologique, c'est-à-dire on les regarde encore comme... alors, ce ne sont pas des photos de spectacle, comme celles du Wild West Show, mais disons qu'il y a un regard distancié d'une certaine façon. Là, Casbière fait des photos qui sont des photos où il y a une forme d'effusion sentimentale ordinaire. Elle prend de la même manière les bourgeoises de son temps et cette indienne Zinkala. Et c'est ce qui m'a plu. Voilà une photo qui n'est pas justement ni la photo d'un objet d'étude, ni une curiosité. C'est une femme avec une forme, quelque chose, un peu d'érotisme sur cette photo. Enfin, elle a du charme, elle est belle, elle a un geste très, très curieux. Donc voilà, c'est un contrepoint au livre.
Il y a également une netteté particulière que l'on doit aux appareils de l'époque, c'est probablement des chambres, et donc il y a une qualité de l'image qui est magnifique.
C'est une très belle photo.
Avec, à l'intérieur, dans votre livre, bien sûr, des clichés très célèbres, par exemple, Buffalo Bill dans son costume de tartarin, pour reprendre votre expression, devant un sitting bull un petit peu perdu avec sa grande coiffe de chef indien. Il y a des photos, des portraits, bien sûr, de Buffalo Bill, et puis puis d'autres personnages qui peuplent ce livre Tristesse de la Terre. C'est pour vous, la photographie, c'est aussi une manière de commencer un récit, comme vous l'avez fait?
Oui, enfin, j'ai un rapport, ça dépend des photographies, en fait. Toutes dans le livre n'ont pas le même statut et j'ai pas le même rapport à elles, et le texte n'a pas le même rapport à elles non plus. À la fois, la photo peut générer, me donner envie d'écrire, d'autres fois elle arrive après aussi que le texte a été écrit. Vous parliez par exemple de cette photographie où Sitting Bull serre la main de Buffalo Bill. C'est une photo très curieuse, c'est une photo à la fois, c'est une photo publicitaire pour le Wild West Show, mais c'est aussi une photo politique extrêmement importante dans l'histoire. Elle est inscrite dans l'histoire des États-Unis, puisqu'il y est question d'une mise en scène de la réconciliation des peuples, et en même temps, on le voit très bien, de la domination à la fois morale et physique des Américains. Donc chaque photo a, dans l'avant-dernier chapitre, il y a par exemple une photographie des rescapés de Wounded Knee, qui revient deux fois dans le chapitre, une autre fois cadrée sur un personnage, donc zoomée en quelque sorte. C'est une photographie là qui a une autre vertu, une vertu d'insistance, et puis d'autres au contraire, effectivement, dont une photo qui n'est pas dans le livre, sont à la source de l'écriture, en tout cas à la fois, parce que la photo ça a un charme très particulier, le portrait. On est face à quelqu'un qui nous regarde et qui, à travers le temps, en quelque sorte sollicite de nous quelque chose, nous requiert. Et donc cette photo qui n'est pas dans le livre et que vous évoquiez de Zinka Lanouni est une photo que je connaissais depuis longtemps et qui est en quelque sorte à l'origine du livre et qui est extrêmement singulière, puisque d'abord on y a une amertume, une douleur très forte qu'on sent dans le visage, et puis une autre chose de frappant, mais que j'ai mis longtemps à voir, c'est qu'elle se tient, alors qu'elle est vêtue en indienne, donc du Wild West Show, elle se tient avec la main sur la hanche, enfin une façon d'être qui n'est pas du tout une des manières d'indienne. Donc c'est ce paradoxe aussi dans cette photographie qui réclamait de l'écriture quelque chose.
L'image également, on va parler tout à l'heure de votre rôle et de votre travail de cinéaste. On a des traces filmées du Wild West Show, Eric?
Oui, on en a. Alors c'est des traces relativement brèves, hein, puisque je suis pas technicien de ces choses, mais je pense que les bobines n'étaient pas très longues à l'époque. Mais oui, on en a, où on voit notamment Buffalo Bill arriver, lever son chapeau. On a aussi, il y a beaucoup de documents, on le voit parlant, alors ça c'est assez amusant, la langue des signes avec des Indiens, tout ça nous est présenté dans des émissions d'ailleurs contemporaines comme du coup un Buffalo Bill ami et proche des Indiens. Or la langue des signes est ce qu'il y a sans doute de plus caricatural, et je serais tout de même curieux de savoir si les gens qui nous les présentent aujourd'hui dans des reportages ont fait traduire par des Indiens ce que l'Indien dit à Buffalo Bill dans la langue des signes. J'aimerais avoir le sous-texte.
On est dans la caricature, effectivement, tout comme les Indiens qui font leur youhou pendant les attaques. Ça c'est une invention directe de Buffalo Bill.
Oui, alors je suis tombé récemment, j'avais déjà vu le film, mais je n'y avais pas prêté attention, puisqu'évidemment, je ne connaissais pas à l'époque cette anecdote, sur La prisonnière du désert de Ford. Et dans La prisonnière du désert de Ford, à un moment, les cow-boys traversent la rivière, les Indiens restent de l'autre côté, entonnent un chant de mort, et à ce moment-là, il y a un personnage d'idiot qui est avec donc les cow-boys, qui se met à faire « wou, wou, wou ». Et le révérend se tourne vers lui et lui dit quelque chose comme « ça va ». Et on a le sentiment qu'à ce moment-là, Ford fait un clin d'œil au Wild West Show, un clin d'œil critique.
On va reparler certainement de John Ford dans un instant. Et puis, je vais me tourner vers Patrick Boucheron. Là. On va changer d'interlocuteur. Patrick Boucheron, vous êtes un médiéviste très éclairé. Les États-Unis et la civilisation américaine n'a pas connu le Moyen-Âge, n'a pas connu les grandes maladies, par exemple, n'a pas connu les grandes migrations, encore que avec les Pilgrim Fathers, on pourrait faire des jonctions. N'a pas connu non plus, pour la terre américaine, tout ce qui est l'héritage de la philosophie grecque, de l'agora, du forum, etc. C'est un manque dans leur société, ou est-ce qu'ils se sont inventés des mythes, comme par exemple celui de Buffalo Bill?
On ne peut pas ne vivre sans le Moyen-Âge, sans cette case médiévale dont vous parliez tout à l'heure. Effectivement, lorsqu'elle manque, on peut l'inventer, mais elle ne manque pas en Amérique. L'Amérique est née au Moyen-Âge. Christophe Colomb est un homme du Moyen-Âge. Il incarne non pas la modernité, mais ce que Michelet appelait la foi obtuse et nue, celle d'ailleurs dont Éric Vuillard parle dans son livre Conquistador. Éric Vuillard ne cesse d'écrire sur le Moyen-Âge américain. Alors après, je peux vous suivre et poursuivre votre sollicitation. Au fond, on est à Manosque, donc établissons des correspondances. Oui, bien sûr, les États-Unis aujourd'hui sont passionnés par le Moyen-Âge européen. C'est là où on a les plus grands monuments gothiques. Ça s'appelle Cloisters à New York. C'est là où il y a davantage encore de médiévistes qu'en France qui s'intéressent à la France médiévale. Il y en a plus aux États-Unis qu'en France. On pourrait multiplier les exemples. Le système américain, le système politique américain même, plein de réminiscences, en somme, de la théologie politique, telle que le Moyen-Âge l'a connue. Mais moi, ce qui me frappe dans ce que Éric Vuillard vient de dire, c'est que au fond, oui, on pourrait établir des correspondances faciles, par exemple, le spectacle arrive à Nancy, c'est à Nancy où meurt Charles le Téméraire, on a décrit la manière dont le cadavre de Charles le Téméraire était aussi gelé, et où il a fallu casser ses membres pour retrouver, bon, voilà, Michelet l'a écrit. Pierre Michon, après Michelet, a repris cette scène, et il y a là évidemment des correspondances, bien entendu. J'avais proposé de lire en Pierre Michon un écrivain du Moyen-Âge. Entendez, non pas un écrivain qui s'intéresse au Moyen-Âge, mais un écrivain qui pose sa voix d'écrivain comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire non pas avec ce grand cirque de l'auteur, ce grand chapiteau dont nous parle aussi Éric Vuillard, mais justement en tentant de poser une narration qui est à mi-chemin entre un surplomb, c'est l'histoire qui parle, et justement une enquête comme Éric Vuillard l'a conduit. Moi, ça me frappe beaucoup. Tout ce qu'il vient de dire peut recevoir des échos. Lisez, par exemple, Le Saint-Louis de Jacques Le Goff. Et vous rencontrerez un homme qui, comme Buffalo Bill, s'est laissé submerger par l'énergie de la fable et a fini, inévitablement, par ne pas avoir d'autre solution existentielle que de ressembler à l'image qu'on était en train de construire de lui-même. C'est Saint-Louis, comédien et martyr, comme disait Sartre de Genet. Voilà.
On a des personnages qui sont emblématiques, qui ont peuplé notre imaginaire et qui ont fait le fondement de l'esprit français. Je pense à, évidemment, Jeanne d'Arc, Saint-Louis, vous en parlez, Bayard, Duguesclin, etc., François Ier, ce sont des personnages emblématiques. Est-ce qu'on peut dire que du côté des États-Unis, ces personnages, on les traduit en mettant Buffalo Bill, Davy Crockett. Est-ce que c'est pas hasardeux de dire ça ?
Je parlais de l'énergie de la fable tout à l'heure, et c'est de cela dont il s'agit. Au fond, la force du western, c'est de prendre une histoire très locale. Et d'ailleurs, le cinéma l'a encore davantage localisé, puisque on dit toujours que c'est les grands espaces. Mais en réalité, ce qu'on nous fait voir, c'est grand comme le Luberon. Bon, ça n'a rien à voir avec l'histoire spatiale des États-Unis. Ça ne nous dit rien au fond de la société de frontières, etc. C'est la vallée de la mort, en gros. Bon. Donc, la puissance du cinéma américain, mais même d'une manière générale de ce que vous m'invitez désigner comme le mythe américain, c'est d'universaliser un point de vue très particulier sur le monde. C'est de faire de toutes petites histoires de clochers une chronique universelle du devenir humain. Et c'est pour ça qu'on peut regarder encore des westerns. Et c'est pour ça que le spectacle de Buffalo Bill était éminemment exportable.
Alors justement, exportable, Éric Vuillard, Buffalo Bill voulait à un moment que Sitting Bull puisse effectuer une tournée en Europe. Les Européens n'en ont pas voulu. Ils avaient la trouille du chef indien, c'est ça ?
Non, c'est qu'il y a eu des problèmes, au contraire, pour Sitting Bull de sortie du territoire américain. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le Wild West Show est aussi un objet politique. C'est un objet politique de plusieurs manières. C'est comme le disait Patrick Boucheron, donc la construction effectivement à partir du local d'une fable universelle, et d'une fable universelle qui est, enfin, qui est pour les Américains évidemment absolument capitale. C'est leur tout ça est contemporain à la fois du développement de la société industrielle, et c'est lié au moment où les États-Unis prennent une place politique de premier ordre dans le monde. Et une anecdote, je crois, qui illustre de façon exemplaire ceci, c'est que Buffalo Bill jouant devant la reine d'Angleterre et Gladstone, au début du Railway Show comme d'habitude, donc un cavalier fait le tour de la reine avec le drapeau américain, la reine d'Angleterre se lève, c'était la première fois qu'elle saluait le drapeau américain, c'est donc un moment diplomatique capital.
La reine Victoria.
Absolument, pour l'histoire des États-Unis, donc je crois que c'est ça qui se joue aussi, et la participation de Sitting Bull fait partie aussi de cette histoire, et le gouvernement américain a évidemment des relations très particulières avec le Railway Show et donc avec Buffalo Bill. Ça n'est pas simplement un saltimbanque, c'est quelqu'un qui aurait pu faire une carrière politique. Vous parliez de Davy Crockett à un moment. Davy Crockett a été pressenti pour être président des États-Unis. Donc voilà, ce sont des gens d'importance, et cette fable est primordiale pour la culture américaine. Je parle aussi dans le livre de la bannière étoilée, qui avant de devenir l'hymne américain était en quelque sorte l'hymne du Wild West Show, et donc le Wild West Show l'a exporté dans le monde avant qu'il devienne l'hymne.
Et si je peux me permettre une réflexion qui rebondit sur ce que vient de dire Éric Guyard, c'est que justement, une des manières qu'ont des historiens américains de réécrire l'histoire du continent comme une histoire globale, c'est-à-dire une histoire qui est au fond synchrone avec l'histoire du monde, c'est de déjouer cette... ce réflexe qu'on a de considérer l'histoire des États-Unis comme absolument singulière. En réalité, elle vit au même tempo que celle des États européens. D'ailleurs, le projet romanesque de Patrick Deville le montre très bien. Il montre comment, dans les années 1860, précisément, il y a une sorte de pulsion du monde qui emporte différentes histoires, et la guerre de sécession que l'on étudie en règle générale, ou que l'on évoque, ou que l'on imagine comme voilà quelque chose qui n'a pas d'équivalent chez nous, si j'ose dire, c'est-à-dire en Europe, mais elle est absolument contemporaine de cette flexure de l'histoire européenne entre des guerres nationales et des guerres de décolonisation, et c'est les deux. La guerre de sécession, c'est une guerre nationale, c'est la construction d'une nation, hein, qui est à partir effectivement du Nord victorieux, et c'est une guerre de décolonisation. Donc d'une certaine manière, depuis le printemps des peuples jusqu'en 1914, eh bien l'histoire de l'Amérique est entièrement synchrone avec celle de l'Europe et du monde.
Oui, on pourrait même sur la guerre de sécession, en termes stratégiques, en termes d'armement, en termes de stratégie militaire, Sherman avec sa guerre totale, ça consonne parfaitement avec ce qui va se passer en Europe.
Avec un traumatisme terrible pour les Américains, ne plus jamais faire la guerre sur notre propre territoire. Et ça, c'est une leçon qu'il faut tirer à l'heure actuelle. Les Américains qui sont présents, mais toujours à l'extérieur de leur propre frontière, et qui n'apprécient pas quand, évidemment, on agresse leur pays, ce qui est légitime aussi. Mais bon,
mais rare.
C'est comme ça, c'est assez rare, c'est vrai. Éric Vuillard, on va parler cinéma avec vous, si vous voulez bien, pour clore cet entretien. Vous êtes également cinéaste, et un cinéaste qui est aussi écrivain, ben, forcément, il fait un film sur une œuvre, et vous sortez très prochainement un film sur la nouvelle de Prosper Mérimée, Matteo Falcone.
Oui, c'est une nouvelle que j'avais lue enfant, comme beaucoup d'enfants, puisqu'elle est dans les programmes scolaires, qui est une nouvelle très particulière, puisqu'elle se termine, enfin chacun le sait, par un père qui tue son fils. Et c'est une nouvelle qui m'avait à la fois plu, qui a des qualités littéraires, elle est notamment très sèche, enfin c'est une narration rapide, mais qui m'avait aussi heurté. Elle m'avait heurté, alors j'ai mis, évidemment enfant, ce qui m'avait heurté, c'est cet épisode de la mort de l'enfant, enfin tué par son père, mais pas seulement, c'est la forme qu'elle prend, la justification au fond, c'est que c'est une nouvelle qui justifie ce fait par un fond culturel corse, reconstruit en fait totalement par Mérimée, ce qui a d'ailleurs à voir avec le Wild West Show d'une certaine façon, puisque beaucoup de Corses ont une relation, disons, problématique avec l'œuvre de Mérimée, puisqu'ils folklorisent la Corse, et cette sorte de théologie sans pardon qui est à l'œuvre dans Matteo Falcon est évidemment une fiction, un montage, une idée que Mérimée propose et qui est à mille lieues de ce qui se produisait en Corse à l'époque. Et donc, petit à petit, enfin, ayant lu cette nouvelle plusieurs fois et grandissant, vieillissant, je me suis dit que j'avais envie de la raconter en changeant, en gardant les faits exactement, mais en changeant le point de vue. C'est-à-dire, au lieu de la raconter du point de vue du père, je voulais la raconter du point de vue de l'enfant, donc comme une sorte de cauchemar d'enfant.
Pourquoi avoir envie justement de traduire une nouvelle qui visiblement vous a marqué, mais sur laquelle vous avez une interprétation relativement personnelle aussi, de dire tiens, j'ai envie de faire partager ça sur grand écran?
D'abord pour ces deux raisons, justement, parce qu'à la fois la nouvelle me plaisait et parce que j'avais le sentiment d'avoir quelque chose à en faire, qui est quelque chose de personnel. Et puis c'est une nouvelle qui laissait une latitude très grande sur deux points. D'abord, pouvoir filmer un enfant, ce qui me plaisait, ce qui me touchait. Et puis également filmer les paysages, c'est-à-dire le paysage est un personnage extrêmement important du film. Et donc, ayant vécu longtemps à la montagne, étant sensible à ces choses, j'avais très envie de certains paysages, de certaines images que j'avais en tête depuis longtemps, qui sont des... Alors c'est toujours un peu curieux, puisque là je n'ai même pas de justification, il y a des images, je crois qu'on en a tous, on ne sait pas d'où elles nous viennent. J'avais par exemple l'image de deux cavaliers sur un même cheval, errant dans les herbes, et on ne verrait pas les pattes du cheval, si bien qu'on aurait presque l'impression qu'il flotte dans le paysage avec une douceur. Donc des choses comme ça sont venues dans le scénario s'intégrer, et puis j'avais surtout ce désir de filmer les paysages d'une certaine manière, mais là c'est difficile d'en parler à la radio, puisqu'il faudrait voir les images.
Il faudrait les images, mais on peut les décrire quand même.
On peut les décrire.
Vous avez également parlé hier, lors de votre entretien, de John Ford, évidemment cet immense réalisateur américain. Tout à l'heure, Patrick Boucheron a évoqué Death Valley, mais il y a aussi Monument Valley, des endroits, des décors magnifiques pour les westerns, notamment de John Ford. C'est quelque chose qui fait partie aussi de votre construction intellectuelle, le western.
Oui et non, en fait, je n'ai pas de goût pour le genre en particulier. Donc il y a des westerns que j'aime, il y a des films policiers que j'aime, mais je les regarde pas vraiment en tant que film policier ou que western. Après, quand j'analyse et qu'on réfléchit à l'histoire du western, c'est autre chose. Non, j'aime beaucoup de films de Ford, par exemple, et d'autres westerns. Alors à la différence, puisqu'on évoquait le paysage de Matteo Falcon, évidemment, Monument Valley ou la Vallée de la Mort, c'est absolument figé, minéral, il y a rien. Là, c'est filmé donc dans les paysages du Causse-Méjean, dans les Cévennes. Alors c'est l'inverse, j'ai choisi ces paysages parce que l'herbe y est fouettée par un vent incessant et que du coup c'est un paysage qui bouge si bien que le rapport au personnage en les filmant est extrêmement, enfin il y a quelque chose à la fois de poétique et de passionnant, c'est-à-dire qu'un personnage qui bouge dans le paysage est finalement ce qui bouge le moins, le paysage bouge beaucoup plus que lui.
Et on connaît l'issue fatale de Matteo Falcon aussi, un moment difficile, un petit peu une intrigue dure, comme dans un western aussi, avec du sang et des larmes, tout simplement. Éric Villard, on verra votre long métrage bientôt dans les grandes salles, dans les salles.
Il sort le 26 novembre.
Il sort le 26 novembre, donc on espère pouvoir le voir à Manosque. Ben, Matteo Falcon d'Éric Villard. Et puis évidemment, on souhaite le meilleur pour Tristesse de la Terre. Vous voyez ce que je veux dire. Éric Villard, c'est paru aux éditions Actes Sud. Je vais vous remercier tous les deux. Merci Éric Villard. Merci aussi Patrick Boucheron de toutes vos explications très éclairantes sur le Moyen-Âge et sur la lecture qu'il faut, ou qu'on peut en faire plutôt. Et puis je vous souhaite de très bonnes correspondances à tous les deux. À bientôt.
Merci. Merci.
Retour retour sur les plateaux de Fréquence Mistral. Agathe, vous avez participé hier, avec mon accord, je le reconnais, à la sieste, à une sieste littéraire. Donc vous avez quitté votre poste de travail pour aller suivre les 12 élucubrations de Bastien Lallemand et ses amis.
Oui, c'était plutôt jeudi.
Jeudi, c'était avant-hier.
C'était première sieste littéraire des correspondances.
Oui. Comment vous avez trouvé ça?
Alors, je sais que là, c'est pas vraiment l'heure de faire la sieste, mais ben, comment j'ai trouvé ça? Ben, je vais vous proposer de le découvrir avec moi. Je pense que c'est beaucoup mieux.
Le plus. Le plus des correspondances.
Appuie-toi, détends-toi.
Je vais tendre au maximum, dormir autant que possible.
Chut, démarrage officiel de la sieste.
Appuie-toi, détends-toi.
Il paraît que tu regardes par les trous de la serrure, hein. Dis-moi donc que c'est pas vrai. D'une seule main comme ça, elle me masse. Je vais le dire à ta maman, moi. Oh là là, le petit cochon. Chéri petit cochon. Elle s'en fait grincer les dents. Elle se tortille. Elle m'agrippe en plein. Elle me passe une belle langue. Une bise de voyou. Moi, j'en vois 36 chandelles. Elle me force à m'asseoir à côté sur le plume. Se renverse, elle s'en dresse d'un coup toutes ses jupes. Touche. Touche donc là qu'elle me fait. Je lui mets la main. Va qu'elle insiste. Va, gros chouchou. Vas-y. Appelle-moi Louison. Ta Louison.
Summer pleasant on the trail of the flow. I've been out of work here and then, drove a ride, it's say, going on a buffalo road, depends upon the pay. But if you pay good wages and transportation too, I think I might go with you. On the trail of the flow. Of course I pay with wages and transportation too. If you agree to work for me until the season
way to stop. Then I'm on the trail. And those
my time in Tirol, Shanghai, then I'm dancing.
Le plus, le plus, le plus. Le plus des correspondances.
Le plus des correspondances qui se terminent dans la sieste. Merci Agathe pour ce reportage. Je vous remercie aussi pour la régie de cette émission qui touche à sa fin. Je vous conseille évidemment de profiter des correspondances à Manos. C'est encore tout ce week-end, ce beau week-end sous le soleil. Il y a beaucoup d'écrivains, des comédiens, des animations qui sont superbes à voir, à entendre et à profiter dans les parages de Manos. Et puis on va se quitter en écoutant de la musique. Juste avant, je voudrais quand même rappeler que la musique de générique, c'est une musique qui est signée Vincent Perani et Émile Parisien. Vincent Perani, superbe accordéoniste, et le saxophoniste Émile Parisien. Et le morceau s'appelle Egyptian Fantasy. Il nous a accompagnés pendant toute cette édition des correspondances. Superbe musique. Merci aussi à Agathe pour la régie. Ce soir, un certain Raphaël est sur scène, non pas trop pour chanter, mais surtout pour parler littérature. C'est un concert littéraire que nous propose Raphaël. Et puis on va se quitter tout simplement en écoutant une chanson de Raphaël. Merci Agathe. Et puis, vous pouvez nous dire le titre peut-être de la chanson?
Alors, c'est Peut-être a-t-il rêvé.
Peut-être a-t-il rêvé. Raphaël, en concert ce soir à Manosque. Attention, il y a très peu de places annoncées dans la grande salle de Jean Le Bleu. Donc, il y a de la place. Le tarif est unique à 10 euros pour le concert de Raphaël qui démarrera à 22h30 aujourd'hui. Merci Agathe. À bientôt.
Merci François. Bon week-end.
Sans elle, la ville n'a pas changé. Le matin, il descend. Comme on donne à manger à un petit enfant, son ventre se rappelle. Puis il ouvre un journal.